Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, tout de suite, Hervé Gardette.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, chute du régime syrien, le Proche-Orient dans l'engrenage. Et nos débatteurs ce dimanche, Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Éditorialiste au Monde, les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est votre dernier ouvrage chez Stock. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du CERF, Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est le livre que vous avez publié cette année chez Albin Michel. François Jemaine, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Spécialiste migration et climat, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme. Votre dernier ouvrage chez Fayard, l'écologie n'est pas un consensus. Et Farid Vahid, bonjour.
Bonjour.
Co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes le co-auteur de « Femmes, vie, liberté, une révolution iranienne » publié l'an dernier chez l'Iconoclaste. Alors avec vous quatre, nous allons revenir sur ce nouveau bouleversement que connaît le Proche-Orient. La chute du régime de Bachar al-Assad, conséquence indirecte de l'attaque contre Israël du 7 octobre 2023 et qui confronte la région à une série de nouveaux défis. Mais avant cela, prenons quelques minutes pour évoquer l'actualité politique française et un nouveau locataire à Matignon.
Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. C'est pourquoi, devant une situation d'une telle gravité, ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté.
Il aura fallu moins de jours à Emmanuel Macron pour nommer un successeur à Michel Barnier qu'il ne lui en avait fallu pour nommer un successeur à Gabriel Attal. Mais il est vrai que cette fois-ci, l'excuse des Jeux Olympiques ne tenait pas. François Bayrou, ancien prétendant à l'Élysée, devenu un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron, arrive donc à Matignon avec un premier défi, durée, et un deuxième, durée suffisamment pour au moins doter la France d'un budget. Je vais commencer mon tour de table avec vous, François Jemaine. Vous êtes si politiste, vous êtes de nationalité belge, pays qui connaît ô combien l'instabilité politique. On a presque l'impression qu'aujourd'hui, la France, l'élève, dépasse le maître belge. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles péripéties politiques?
Il est certain, cher Hervé, qu'en Belgique, l'instabilité est devenue en quelque sorte un gage de stabilité dans le régime orwellien dans lequel nous sommes désormais. Mais c'est vrai que j'ai maintenant immigré en France il y a 17 ans de cela, et je pense m'être à peu près bien intégré dans votre pays, qui me plaît beaucoup. Mais il y a quand même malgré tout des choses qui continuent à m'étonner, et en particulier cette conviction que vous, Français, avez chevillée au corps, qui est celle de vivre en République. Alors qu'en réalité, vous êtes resté dans un régime qui est très très monarchique, où vous confiez les pleins pouvoirs tous les 5 ans à quelqu'un que certes, vous élisez, mais après, cette personne fait à peu près tout ce qu'elle veut. Et c'est très curieux, cette conviction que vous avez. Par exemple, quand les politiques doivent s'adresser à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils disent « je vous adresse un salut républicain ». J'ai toujours trouvé cette formule très très amusante. Alors autant dire que François Bayrou, il a reçu les félicitations républicaines d'à peu près tout le monde. Et je trouve qu'on fait un peu un mauvais procès, effectivement, de critiquer une sorte de dérive dictatoriale du président, etc. Alors qu'au fond, si moi, on me confiait ainsi les pleins pouvoirs tous les 5 ans, eh bien, je les utiliserais aussi. Je crois que quelque part, ce que cette instabilité dit, c'est aussi sans doute que les institutions ne sont pas, je crois, à la hauteur de ce que les Français sont censés en attendre. Je suis frappé notamment du fait qu'on est entièrement aujourd'hui focalisé sur l'élection présidentielle et qu'on oublie de gouverner la France entre-temps. On gouverne la France pendant 6 mois après l'élection et puis tout de suite, on pense au suivant, on en est déjà à se demander si Louis Sarkozy sera candidat en 2032.
Sauf que vous mentionnez un peu le fait du roi par rapport à cette nomination, mais quand on regarde les comptes rendus, c'est semble-t-il plutôt François Bayrou qui aurait forcé la main au président de la République. Donc finalement, on n'est peut-être pas tant en monarchie que ça, François Jemaine.
En tout cas, c'est sa force. Je dirais, le risque des précédents premiers ministres, c'était d'apparaître un peu comme les pantins du président. Comme on a fait savoir dans toute la presse cette fois-ci que Emmanuel Macron ne voulait pas nommer M. Bayrou et que M. Bayrou lui a forcé la main, quelque part, peut-être que M. Bayrou part avec un plus grand capital de confiance dans l'opinion parce qu'il a forcé le bras du président.
François Bayrou, c'était le meilleur choix possible pour Matignon, Sylvie Kaufmann, ou le moins mauvais, je ne sais pas comment.
L'avenir le dira, on va voir comment il arrive à former un gouvernement, mais vous disiez c'est un nouveau Premier ministre, il est nouveau parce que c'est le sixième de la présidence Macron en fait, mais il n'est pas neuf, il a 73 ans, le même âge que son prédécesseur Michel Barnier, et donc c'est quelqu'un qui a une très très longue expérience en politique, et je crois que c'est ça pour le coup, ça va être utile parce qu'il est finalement confronté aux mêmes contraintes, aux mêmes pressions arithmétiques de la recherche d'une majorité pour pouvoir déjà faire adopter un budget que son prédécesseur. François Gémen disait nos institutions sont inadaptées. Ne sont pas à la hauteur de ce qu'en attendent les citoyens. Je crois qu'on est dans un moment, là, depuis cette dissolution, qui montre que nos institutions, surtout de la Ve République, ne sont plus en phase, ne sont plus adaptées à l'évolution de la vie politique et surtout à la disparition des grands partis politiques. Et on voit bien qu'on a maintenant, avec cette tripartition, un énorme problème pour faire fonctionner l'Assemblée nationale avec un gouvernement et la présidence de la République. Donc, bien entendu, François Bayrou ne va pas régler ça. Mais je crois que les problèmes plus urgents auxquels il va devoir s'atteler sont vraiment très immédiats. La question du budget, bien sûr. Alors, il y a une petite différence avec le défi auquel était confronté Michel Barnier, c'est que à gauche, il y a un petit mouvement. Et donc, il apparaît dans un premier temps, François Bayrou, moins otage du RN d'une certaine manière et plus dépendant du PS. Et le PS, le Parti Socialiste, qui commence à se détacher de LFI. Mais jusqu'où ? Enfin voilà, ça c'est ce qu'il va falloir observer et ce qui va déterminer probablement une partie de son succès.
Il y a des raisons de penser, Jean-François Colosimo, que François Bayrou aura un peu plus de latitude pour gouverner que n'en avait son prédécesseur Michel Barnier.
Oui, alors d'abord deux choses. La première, c'est que les institutions de la Ve République qui ont réconcilié en fait les deux versants de l'histoire de France, la monarchie et la République, ont été largement dénaturées par l'adoption du quinquennat qui a fait du président de la République non plus le président de tous les Français, mais un chef de parti. Deuxièmement, par le blocage à deux quinquennats, ce qui fait que celui qui est élu pour son deuxième quinquennat, en quelque sorte, est neutralisé d'avance. Et puis par le fait aussi que c'est un système bipolaire d'un point de vue parlementaire, et que, en fait, les deux grands partis dominants ne se sont jamais assez souciés de l'opinion populaire, pensant qu'ils avaient l'éternité devant eux, ces deux partis dominants. Et du coup, évidemment, il y a toute une opinion qui s'est reportée aux deux extrêmes, incarnés par le RN et LFI, et que donc aujourd'hui on a une tripartition qui est à peu près ingérable. Dans cette tripartition, François Bayrou, qui est quand même un politique qui a une pensée, et surtout une ténacité, n'est-ce pas ?
Enfin,
c'est une des grandes qualités en politique, hein, soyons clairs, et qui incarne aussi un courant qui est un peu inconnu en France en raison de la bipolarisation de la Ve, qui s'appelle l'héritage de la démocratie chrétienne, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui est un véritable centriste, qui a été faiseur de roi, vous l'avez dit, hein, puisqu'il est déterminant, en fait, dans l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir. Bon, il avait été en quelque sorte stérilisé, interdit par les affaires du Parlement européen, des assistants parlementaires, un peu à la manière de Marine Le Pen, mais aussi de Mélenchon et autres.
Ce qui fait qu'il avait fait un passage extrêmement éclair au ministère de la Justice.
Donc là, il arrive en fait, on arrive un peu, je dirais, quasiment 7 ans après, à sa mise en évidence comme un homme clé, en fait, de la France que projetait Emmanuel Macron. Ça, c'est en quelque sorte un peu son handicap, parce qu'il y a aussi un consensus chez les parlementaires pour rejeter ce modèle. Le deuxième problème auquel il va se confronter, c'est que cet homme a une ambition qui est de porter la France, donc d'être président de la République, n'est-ce pas, et que, en fait, il voit Matignon comme un tremplin pour la prochaine élection présidentielle. Et là, en fait, dans son propre camp supposé, il y a des rivaux, il y a des prétendants qui ne vont pas lui rendre la vie facile. Alors on peut penser évidemment à Édouard Philippe, à Laurent Wauquiez, mais aussi cet accord dont parlait Sylvie avec le PS, qui est un accord un peu plutôt comme en théologie négative, c'est plutôt ce qu'on fera pas que ce qu'on ne fera pas que ce qu'on fera pour. Mais même là, vous voyez bien que François Hollande est de retour, et d'ailleurs peut-être même que ce demi-ralliement du PS tient au fait que François Hollande a besoin de temps. Et donc on voit déjà effectivement, là François n'a pas tort, que se joue déjà, en quelque sorte en coulisses, une forme de répétition générale de la prochaine présidentielle. C'est toute la chance et peut-être tout le malheur de François Bayrou.
Avec possiblement des candidatures qui ne traduiront pas forcément un important renouvellement du personnel politique. Farid Vahid, vous qui observez le Moyen-Orient depuis la Fondation Jean Jaurès, comment est-ce que vous observez cette actualité politique-là ?
Écoutez, moi, personnellement, bon gaulliste que je suis moins dur vis-à-vis des institutions que François, mais je pense que c'est surtout les élus qui ne sont pas à la hauteur de la situation. Quand j'étais en Iran, ce que j'appréciais beaucoup avec la France, c'était le fait que les Français faisaient passer l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt général du pays, devant les intérêts personnels. C'est ce qui fait finalement la différence entre une démocratie et une dictature. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a une forme d'obsession avec l'élection présidentielle. Et juste en un mot, c'est peut-être pas le meilleur moment d'être dans cette instabilité, de ne pas avoir un gouvernement, quand on voit tout ce qui se passe en Syrie, en Ukraine, en Afrique, avec l'arrivée de Trump, la construction européenne avec Orban et les autres en Europe. C'est peut-être le moment de remettre l'intérêt du pays devant les intérêts personnels, et j'espère que les élus aussi seront à la hauteur.
Mais c'est difficile parce qu'on a moins de 3 ans de l'élection présidentielle, on est le nez dessus quasiment. Voilà.
Jean-François ?
Oui, je dirais aussi que François Bayrou, c'est un homme, j'avais dit, qui a une pensée, mais qui a une écriture aussi. C'est un des rares hommes politiques qui écrit vraiment ses livres. On sait qu'il avait fait naguère un immense succès avec Henri IV, et il n'a pas manqué d'évoquer la figure du Béarnais, puisque c'est sa région, n'est-ce pas ? Et Henri IV, c'est l'homme qui arrive à dépasser les guerres de religion. Si François Bayrou y arrive, il aura réussi.
Et évidemment, on ne lui souhaite pas de terminer de la même manière. On passe à présent à l'actualité internationale.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Allez, revenons à présent sur ce nouveau cataclysme politique au Proche-Orient, la chute du régime de Bachar al-Assad. Événement d'autant plus considérable qu'il a pris tout le monde par surprise. Après 24 ans de règne, le président syrien, digne héritier de son dictateur de père Hafez al-Assad, a donc été contraint de prendre la fuite, laissant derrière lui un pays dévasté. La guerre en Syrie a coûté la vie à plus de 500 000 personnes, plus de 6 millions de Syriens ont quitté leur pays, 6 autres millions se sont déplacés à l'intérieur pour échapper aux bombardements, soit plus de la moitié de la population totale. L'économie est exsangue, la corruption endémique. Pour les nouveaux dirigeants syriens, le défi est immense. Des dirigeants dont l'identité conduit à modérer l'enthousiasme qui suit d'habitude la chute d'un tyran. Le nouvel homme fort du pays, Abu Mohamed al-Julani, est à la tête de HTS ou HTC, Hayat Tahrir al-Sham, principale composante de la rébellion syrienne, l'héritier du groupe salafiste al-Nusra, autrefois affilié à Al-Qaïda. C'est du passé, affirme al-Julani. La rupture avec le djihad global est consommée. Notre seul credo, c'est la Syrie. À voir. Sa victoire, en tout cas, aura été fulgurante. 12 jours à peine entre le début de l'offensive sur Alep et la victoire face à des troupes syriennes en déroute. Une offensive entamée alors que le cessez-le-feu venait d'entrer en vigueur au Liban, entre Israël d'une part et le Hezbollah d'autre part. Tout sauf un hasard, car depuis plus d'un an, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le Proche-Orient ressemble à un vaste système d'engrenages. Dès qu'une pièce se met à bouger, elle en entraîne une autre dans la foulée. L'offensive israélienne sur la bande de Gaza a eu des effets en mer Rouge, au Liban, en Iran et donc désormais en Syrie. Un épisode de plus, mais sans doute pas un épilogue, car quelle sera la suite ? L'effet domino peut-il atteindre Téhéran ? Que va faire la Turquie et Israël ? Quid des réfugiés syriens, ceux qui veulent rentrer au pays, ceux qui pourraient vouloir le fuir? Et pour commencer, quel avenir politique pour la Syrie? Je rappelle que nous sommes en compagnie de Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo, François Jemaine et vous, Farid Vahid. Première question à ce sujet. Après 13 ans de conflit, la guerre civile a démarré en 2011 en Syrie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la guerre est terminée?
Ah non, je ne pense pas du tout. Ce qui est terminé, c'est le régime Assad, qui est une très bonne chose, 50 ans de dictature d'Hafez et de Bachar Assad. Et il y a un nouveau équilibre dans la région, un nouveau Moyen-Orient. Tout ça, c'est aussi les conséquences finalement du 7 octobre. La République islamique qui était si fière de son axe de la résistance, aujourd'hui on voit l'axe qui a complètement disparu. C'est essentiel pour les Iraniens d'avoir un accès direct à la Méditerranée et au Hezbollah au Liban. Donc la chute d'Assad aura des conséquences majeures, on en reparlera, sur les équilibres géopolitiques dans la région. Mais je ne pense pas que ça soit la fin de la guerre, on l'espère. Mais déjà, le premier défi pour les Syriens, c'est de défendre l'intégrité territoriale de leur pays. On voit que vers Damas, les Israéliens avancent petit à petit. Dans le nord, les Turcs ont leurs ambitions. Dans l'ensemble du pays, on parle beaucoup du mouvement de Jolani, mais il y a d'autres mouvements armés aussi qu'ils ont présents. Donc voilà, la construction de l'État en Syrie ne va pas être facile. Vous savez, la Syrie, après la chute de l'Empire ottoman, a connu de nombreux coups d'État. Et finalement, c'était les régimes Assad. Et c'était, on va dire, la première fois où le pays avait une État-nation stable. Donc ils ont un défi majeur aujourd'hui, cette construction d'un État stable qui pourra faire unir tout le pays. Un pays multiethnique avec des religions différentes. Donc il y a une construction de l'État à faire, mais aussi finalement une construction d'une nation qui doit se faire.
Et pour l'instant, celui qui est en position d'assumer cette stabilité de la Syrie, c'est donc Mohamed al-Jolani, qui est donc le leader de HTS, qui essaie de rassurer. Écoutez-le, c'était il y a quelques jours.
Leurs craintes ne sont pas inutiles. Si Dieu le veut, le pays sera reconstruit. La peur venait de la présence du régime. Il est maintenant parti, grâce à Dieu, et le pays avance vers le développement et la reconstruction. Il va vers la stabilité. Nous sommes épuisés par la guerre. Donc le pays n'est pas prêt pour s'engager dans un autre conflit.
Farid Waïd, quand al-Jolani parle des craintes, c'est les craintes alors notamment de ce qu'on appelle la communauté internationale, à savoir l'origine djihadiste islamiste de ce mouvement HTS. On voit bien qu'il y a des gages qui sont donnés, peut-être d'abord sans doute même à la population syrienne, mais aussi aux autres chancelleries. Est-ce qu'il y a des raisons de douter de ce qu'on pourrait appeler une forme de conversion de ce groupe, ancienne filiale d'Al-Qaïda, aujourd'hui, qui semble avoir épousé plutôt le nationalisme syrien?
Écoutez, j'ai personnellement très peu d'illusions sur les volontés de démocratie ou de liberté ou de démocratie libérale de ce mouvement-là. Non, et certes, il a une différence, le mouvement HTS avec Daesh. Ils sont beaucoup moins dans une logique de djihad international. Mais un mouvement nationaliste, mais islamiste. On oublie de... Faut préciser sur le côté islamiste et identitaire de Jolani. Il fait son premier discours dans la mosquée des Omeyyades. C'est tout un symbole, la mosquée des Omeyyades pour les gens du Levant. Aussi dans le conflit qui oppose les sunnites et les chiites, c'est pas un lieu anodin, la mosquée des Omeyyades. On a vu aussi sur des images, il y a deux jours, une jeune femme syrienne qui voulait se prendre en photo avec lui, qui n'était pas voilée, et qui demande à la jeune femme de se voiler. Donc c'est des islamistes, on sait d'où il vient du front d'Al-Nusra, une branche d'Al-Qaïda en Syrie. Donc il ne faut pas le présenter non plus dans les médias d'un coup comme le libérateur démocratique de la Syrie. Si vous voulez, ça me fait un peu penser finalement, le parallèle que je fais avec l'ayatollah Khomeini en 79, où en France on était content de la fin du règne du Shah, et on présentait Khomeini comme le libérateur de l'Iran. Je vois un peu les mêmes réflexes concernant Jolani. Certes, il va peut-être pas chercher à mener des opérations terroristes en Europe, et on verra, mais il cherche à instaurer un régime islamique en Syrie.
Sylvie Kaufmann, comment est-ce qu'il faudrait procéder entre une nécessaire prudence liée effectivement à l'identité de HTS et également la nécessaire reconstruction de la Syrie qui va forcément passer par ceux qui sont considérés quand même, en tout cas par un certain nombre de Syriens, comme les libérateurs du pays?
Oui, d'abord, je crois qu'il faut se réjouir de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même la chute d'une dictature qu'on savait terrible et sanguinaire, mais tous les reportages, les témoignages qu'on entend, qu'on lit depuis 10 jours sont au-delà, je crois, de ce qu'on imaginait dans l'horreur et le sadisme et la terreur qui était utilisée comme moyen de gouvernement par ce régime. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, évidemment, comme disait Farid, Il faut juger sur pièce et ne pas se bercer d'illusions. Bien sûr, la Syrie ne va pas se transformer du jour au lendemain en une social-démocratie suédoise, encore qu'on puisse s'interroger sur l'évolution des social-démocrates suédois, mais c'est une autre histoire. Mais je crois qu'il faut être très prudent, aider en effet à encourager les nouveaux maîtres de la Syrie, pour autant qu'ils soient maîtres du pays, à avoir une approche inclusive, puisque c'est le mot qu'on adopte tous maintenant, et la plus rassembleuse possible. Mais je pense que là, au moment où on parle, c'est beaucoup trop tôt, parce que d'abord, une fois qu'on s'est réjoui de la fin d'une dictature, il faut regarder quand même, essayer de mesurer l'ampleur de ce qui s'est passé. C'est un basculement. Farid Vahid faisait une comparaison avec l'ayatollah Khomeini. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle tout d'un coup ce mouvement s'emballe et s'effondre, c'est assez extraordinaire. Et ça provoque une recomposition générale, d'abord dans le pays, dans la région, mais aussi avec des implications géopolitiques absolument dont on n'a pas encore tout à fait l'orientation. Enfin, on voit les choses se dessiner, mais je crois que vraiment l'onde de choc à laquelle on assiste de l'après 7 octobre, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est une réaction en chaîne depuis 14 mois. On a d'abord le massacre du... Je pense que ça vaut la peine de revenir un petit peu sur ces étapes, parce que c'est vraiment... La vitesse est tellement sidérante. Donc on a d'abord le massacre du 7 octobre. Ensuite, on a l'offensive israélienne contre Gaza, qui n'est pas terminée. On n'en parle pas ces derniers jours, mais ça continue et l'aide humanitaire est bloquée, etc. Ensuite, on a donc le Hezbollah qui tire sur le nord d'Israël depuis le Liban, et donc offensive en retour, offensive israélienne contre le Hezbollah, guerre au Liban, le Hezbollah très affaibli, la route en Syrie qui permettait l'approvisionnement du Hezbollah en armement depuis l'Iran est coupé. Il y a aussi cet affrontement par missile interposé entre l'Iran et Israël qui se termine au détriment de l'Iran. Et puis, parallèlement, on a la Russie qui est occupée en Ukraine, qui n'arrive donc pas à se mobiliser pour aider à sauver le régime Assad. Et finalement, donc, les rebelles du HTC qui décident de mettre à profit cet affaiblissement de l'Iran à cause du Hezbollah et de la Russie. L'Iran et la Russie étant les deux piliers du régime Assad. Et le régime s'effondre. Voilà. Mais si on a aussi parallèlement, si on élargit la focale et si on regarde depuis l'an 2000, en gros, le dernier quart de siècle, on a un cycle là qui correspond d'ailleurs aussi à la biographie. Je disais que Al-Jolani ou Al-Sharaj, je ne sais pas comment on doit l'appeler maintenant, qui était très jeune au début des années 2000, il raconte qu'il a été motivé par la deuxième intifada en 2000. Bon, là, il était vraiment, je pense qu'il était un adolescent, mais ensuite le 11 septembre, la guerre en Irak, et donc voilà, les printemps arabes. Et donc on a là finalement un cycle, je ne sais pas s'il se termine, mais on a vraiment une étape décisive dans ce cycle-là.
Ce qui est clair, c'est que c'est vraiment étourdissant. C'est vrai, quand on refait justement le récit de ces 14 mois, vous parlez d'onde de choc, François Jomène, c'est le terme qui vous semble approprié pour essayer de qualifier quand même tout ce qui vient de se passer.
C'est vrai que les événements se sont accélérés au cours des 10 derniers jours, et donc effectivement... On s'était finalement presque résolu à ce que cette guerre civile qui dure depuis plus de 13 ans n'ait pas de fin et à ce que le règne de Bachar al-Assad n'ait pas de fin. Et d'un coup, on est presque surpris au fond que cette guerre civile à laquelle on s'était presque habitué se termine. Et donc, notre surprise génère beaucoup de questions, naturellement. Quelques éléments. Bachar al-Assad, ce n'était pas juste un dictateur. C'était un dictateur qui faisait... bombarder sa propre population, qui utilisait des armes chimiques contre sa propre population. Et donc, nous ne sommes pas ici dans une sorte de dictature un peu acceptable aux yeux de l'Occident, comme a pu l'être celle de son père, Hafez el-Assad, qui semblait être une sorte de gage de stabilité dans la région. Ici, on est avec quelqu'un qui massacrait littéralement sa propre population. Je pense que c'est important de le rappeler. Je pense que c'est important de s'étonner aussi un peu de l'amabilité avec laquelle nous traitons désormais les députés du RN ou de la France insoumise qui allaient régulièrement à Damas baiser l'anneau de ce dictateur. Et puis, de dire que, bien sûr, nous avons des interrogations sur la personnalité du nouveau Premier ministre. Mais je pense qu'il faut rappeler que ça pourra difficilement être pire. ça pourra difficilement être pire que le régime qui vient de se terminer. Donc, bien entendu, nous avons des interrogations. Bien entendu, ce ne sont pas des sociaux-démocrates suédois. Bien entendu, ce sont des islamistes. La grande question, à mon avis, qui se pose maintenant, elle est double. C'est un, quelle va être la nature du régime mis en place, la nature des libertés publiques, notamment à l'égard des minorités ou à l'égard des femmes. Et deux, quelles sont les garanties de stabilité du pays? Il faut rappeler que ce pays sort d'une guerre civile, qui a plusieurs factions rivales, que les rebelles sont également composés de plusieurs factions. Quelle sera la capacité de ce Premier ministre à garantir une certaine forme de paix et de stabilité dans le pays?
Est-ce que notre des questions, François Jemen, ça doit être aussi la question de la justice, c'est-à-dire eu égard aux crimes commis par Bachar el-Assad et aussi par ceux qui ont profité de ce régime? Est-ce que ça doit être une forme aussi de priorité, de dire que Bachar el-Assad et ses complices devront être jugés, peut-être d'abord par les Syriens, avant que ce soit la justice internationale qui s'en mêle?
Il doit être en prison à La Haye plutôt que dans un palais à Moscou, soyons très clairs. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'affaiblissement de la Cour pénale internationale auquel on a assisté ces derniers temps et dont la France, il faut bien le dire, s'est un peu rendue complice, est tout à fait dommageable, y compris parce que après, nous allons devoir juger les criminels syriens et aussi, je l'espère, ceux d'autres régimes sanguinaires dans le monde.
Même s'il faut rappeler que c'est la justice française qui a lancé un mandat d'arrêt international contre Bachar el-Assad. Jean-François Colosimo.
Oui, moi je crois quand même qu'il faut prendre un peu de recul et voir l'histoire longue. La Syrie, c'est un pays d'hyperviolence depuis la dictature du père de Bachar, Hafez al-Assad. Il faut se souvenir du massacre de Hama en 1982, lorsque toute une ville est prise d'assaut la nuit par l'armée, après avoir été bombardée, et que sont liquidés à peu près 10 à 15 000 hommes suspectés d'être des islamistes, et pour beaucoup qui le sont vraisemblablement, n'est-ce pas? Donc ce règne de l'hyperviolence, il a traversé toute la Syrie. Alors évidemment, je veux dire, les crimes de Bachar el-Assad sont inexcusables et doivent être jugés. Je veux dire, ils sont abyssaux. Mais en même temps, c'était le pays aussi où a fleuri Daesh, n'est-ce pas? Monsieur al-Jolani lui-même, il s'est distingué tout de même par des purges hyper sanglantes au sein de ses propres rangs pour garder le pouvoir et asseoir son pouvoir. Donc déjà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la Syrie sorte de l'hyperviolence qui a marqué, en fait, au moins cette dernière décennie, et un peu plus, en fait, si on va chercher plus loin. Ça, c'est un premier point. Avec évidemment les opérations de gaz, la destruction de son propre peuple, enfin, etc. Le deuxième point, c'est que, vraisemblablement tout de même, il ne faut pas être naïf, il y a eu certainement une trahison d'une partie de l'appareil baasiste, puisque la Syrie, c'est le parti Baas, comme il est arrivé d'ailleurs en Irak, n'est-ce pas? C'était le parti de Saddam. Alors évidemment, c'était deux partis Baas, frères ennemis, mais deux partis Baas, et donc ça signe aussi la fin définitive. On savait que c'était fini, mais du panarabisme, n'est-ce pas? Ça, c'est un point important. Ce parti Baas, il était alaouite dans son noyau dur, cette minorité dont est issu Bachar el-Assad, qui est une minorité ethnico-religieuse très curieuse, très particulière, qui a réussi à se faire affilier au chiisme, n'est-ce pas? Mais bon, qui a réussi, je dirais, à force un peu de contorsion théologique tout de même. Mais malgré tout, il y avait aussi une partie de la bourgeoisie sunnite et du monde sunnite. Il semble donc quand même que l'appareil d'État, les services, à un moment, on préférait la solution Jolani et on lâchait Bachar, ce qui explique certainement la rapidité de cette avancée. Ça, je pense que si on connaît un peu l'Orient, c'est impossible autrement. Ce qui veut dire aussi qu'une partie de cet appareil va s'allier avec al-Nosra, enfin, ou l'héritage de al-Nosra, ce qui veut dire qu'on va retomber, en fait, sur une complexion qu'on a déjà vue en Irak, avec un renforcement en fait d'un parti islamiste qui n'a pas les moyens de gouverner, mais auquel les anciens gouvernants apportent la technologie. Voilà. Le dernier point, c'est qu'on n'a peut-être pas fini, malheureusement pour les Syriens, avec l'hyperviolence, parce que al-Jolani va-t-il réussir, n'est-ce pas, à garder l'intégrité territoriale? Or, moi, ce qui me frappe le plus dans tout ce que j'ai lu depuis que tout ça a démarré, c'est que on parle quasiment pas des Kurdes, qui ont été nos alliés, pas face à Daesh, qui ont fait le travail pour nous contre Daesh, que nous n'avons pas rétribué comme ils l'attendaient, qu'on a lâchés et qui sont encore aujourd'hui lâchés, alors que finalement, dans toute cette région, c'est une des composantes, je dirais, malgré tout, les plus proches de notre ADN politique, surtout si on regarde un marqueur qui est important pour nous, qui est la condition de la femme.
Justement, alors sur la question kurde, Farid Vahid, si les nouveaux hommes forts de Syrie veulent faire l'unité, ils sont obligés de faire alliance avec les Kurdes. Or, on sait que la Turquie, qui a plus qu'encouragé, disons, les rebelles syriens à faire tomber le régime de Bachar al-Assad, a un ennemi juré, ce sont les Kurdes. Comment est-ce que cette équation-là, elle peut être résolue? Ça semble extrêmement compliqué pour arriver justement à de la stabilité.
Alors l'idéal pour les Kurdes syriens, ça serait peut-être d'avoir la même situation que les Kurdes en Irak, où ils ont une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de l'État central de Bagdad. Mais comme vous l'avez dit dans votre question, ça va être très compliqué pour Al-Jolani et ceux qui vont former un gouvernement, qui vont créer ce nouvel État syrien, d'être complaisants avec les Kurdes, dans le sens où ils ont besoin, avant les Kurdes, des Turcs. Donc ils ont besoin du soutien turc. D'ailleurs, c'est grâce au soutien turc aussi, entre autres, qu'ils ont pu prendre Damas. Et vous l'avez très bien dit, il y a une forme d'obsession d'Erdogan, mais qui date d'avant lui, sur la question kurde. Donc effectivement, comme ça a été dit, je pense que le soutien des États-Unis est crucial pour la survie des Kurdes, et c'est les États-Unis qui pourraient, in fine, obliger ou mettre la pression sur le nouveau gouvernement syrien pour ne pas, disons, massacrer les Kurdes et leur donner une autonomie. Mais Donald Trump arrive au pouvoir le 20 janvier et il parle souvent du désengagement des Américains de la Syrie. On sait qu'il reste aujourd'hui 900 soldats américains en Syrie, dans le nord-est, donc dans les territoires kurdes. Et la question se pose qu'en cas de retrait des troupes américaines, qu'est-ce qui empêcherait l'armée turque de mener des offensives dans le territoire syrien kurde et de massacrer les alliés kurdes de l'Occident. Qu'il le fait déjà et qu'il le fera.
Parce que Idlib, qui était, je dirais, le territoire qui appartenait à HTS, c'était aussi un protectorat turc. Et la meilleure preuve en est, c'est que c'était la livre turque qui en était la monnaie, n'est-ce pas? Je veux dire, quand on a le pouvoir de la monnaie, c'est quand même quelque chose.
Bon. Mais c'est pas seulement militaire. Turkish Airlines vient de rouvrir sa ligne pour Benghazi.
Absolument. Et vous avez aussi le lien entre la Turquie et le Qatar, c'est-à-dire l'axe frériste, alors que le Golfe représente plutôt l'axe salafiste, n'est-ce pas? Et le Qatar rouvre son ambassade immédiatement. Donc, vous voyez quand même que c'est pas aussi, je dirais, simple que ça ne paraît. Et la question kurde, elle est cruciale. Parce que, en fait, lorsque la Turquie moderne est née en 1923, juste après, Mustafa Kemal Atatürk réclamait Alep et Mossoul comme des villes turques. N'est-ce pas? Donc, on voit qu'il y a une constance sur un siècle, tout de même. Bon, tout ça est dû, effectivement, au fait que tous ces pays, Syrie, Irak, etc., ont été faits par nous, Français, avec les Britanniques durant la Première Guerre mondiale. Ils ont été taillés n'importe comment sur l'Empire ottoman, mais là on voit en fait le bouillonnement communautaire, le chaudron communautaire qui était couvert par l'Empire ottoman, qui ensuite a été couvert par ces nations découpées par les Européens, les deux grandes puissances coloniales européennes, Paris et Londres. On voit que tout ça ressort et qu'on est dans une instabilité extraordinairement profond qui, on le sait déjà, ne profitera pas de toute façon au peuple syrien dans sa quotidienneté, quoi qu'il arrive.
Et on va voir dans un
même
instant.
Même si on ne connaîtra plus, évidemment, cette boucherie.
Il ne faut jamais jurer de l'avenir.
Le côté Assad, ça ne sera certainement pas répété, mais encore une fois, implosion du pays. Regardez, les Alaouites peuvent prendre le pays qui est le leur, traditionnellement, et où il y a les bases russes, etc., etc., les Kurdes de l'autre côté, etc.
On va voir dans un instant, justement, comment ce bouillonnement, enfin, à qui peut profiter aussi cette nouvelle instabilité, ou en tout cas ces nouvelles cartes qui se dessinent dans la région. Mais je voudrais qu'on évoque quand même aujourd'hui une des urgences qui est celle liée à la question des réfugiés, les déplacés de l'intérieur, les réfugiés de l'étranger, puis cette crainte manifestée par certains Européens, certains pays européens, de voir se reproduire une crise migratoire comme celle de 2015. Et alors écoutez ce qu'on disait cette semaine, c'était sur France Inter, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk.
J'ai parlé avec des centaines de réfugiés syriens au fil des années. Et je sais qu'un de leurs désirs, c'était toujours de retourner dans leur pays. Mais une fois qu'il y a des conditions de sécurité et des conditions de dignité.
C'est trop tôt.
Et pour le moment, je pense que c'est le tôt très tôt. Et je sais, j'ai vraiment confiance en eux de savoir quand est le moment pour eux de retourner.
François Jemaine, quand on a appris donc que les rebelles de HTS avaient conquis Damas, tout de suite il y a eu ces craintes tout à fait pertinentes hein, liées à la nature islamiste de ces mouvements. Mais en même temps, il y a un certain nombre de pays européens qui a dit alors on suspend l'examen des demandes d'asile. Et certains sont même allés plus loin, comme l'Autriche par exemple, qui prépare un programme de rapatriement et d'expulsion. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction, voire un peu de cynisme, à dire attention, le nouveau régime est dangereux, mais rentrez quand même au pays?
D'abord, il y a effectivement cette dose de contradiction et de cynisme que vous pointez. Et puis, il y a quand même cet empressement. J'ai été, moi, personnellement, tout à fait stupéfait de voir que la première réaction des pays européens, c'était d'annoncer la suspension des demandes, de l'examen des demandes d'asile, voire même des programmes d'expulsion de ceux qui étaient déjà protégés et sous statut de réfugiés. C'est dire à quel point nous sommes absolument obsédés par cette question pour que face à ce qui est quand même un changement majeur dans la région, la première réaction, c'est sur des affaires de traitement de la demande d'asile qui sont au fond des affaires intérieures de chaque pays européen. Et je pense que ça en dit très long de notre obsession. Alors maintenant, sur le fond, vraisemblablement, il va y avoir un retour massif des Syriens dans leur ville, dans leur quartier d'origine. On le voit déjà avec les quelques 6 millions qui ont été déplacés à l'intérieur du pays. On voit déjà des colonnes de voitures depuis le Liban, depuis la Turquie. Pour ceux qui sont en Europe et qui sont protégés par le statut de réfugiés, c'est évidemment plus délicat. Parce qu'il faut savoir que s'ils retournent en Syrie, eh bien, c'est un motif de déchéance de leur statut de réfugié. C'est-à-dire que parmi les seuls motifs qui font qu'on peut perdre ce statut de réfugié, qui est un statut très protecteur et à raison, c'est le fait de retourner dans son pays d'origine et donc, en quelque sorte, de montrer qu'on ne craint plus les persécutions que l'on avait fui en premier lieu. Et donc, on peut imaginer que ceux qui sont sous statut de protection temporaire ou subsidiaire, qui ne sont pas des statuts aussi protecteurs que celui de réfugiés, on peut imaginer que ces statuts soient levés dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et qu'il y ait aussi un mouvement spontané des gens qui vont vouloir rentrer chez eux. Il faut rappeler aussi que la Syrie n'était pas un pays qui envoyait traditionnellement beaucoup de migrants à l'étranger. Ce n'est pas un pays d'émigration, et donc on peut faire l'hypothèse qu'effectivement une partie des réfugiés syriens va rentrer chez eux, mais sans doute vont-ils aussi se donner le temps de voir un peu quelle sera la nature du nouveau régime avant de rentrer et de participer à la reconstruction de leur pays. Autre élément, c'est que cette guerre civile, elle dure depuis 13 ans. Une partie des réfugiés en Europe ont retrouvé une vie ici, ont retrouvé du travail, peut-être se sont mariés, ont fait des enfants qui sont désormais scolarisés en Europe, et certains d'entre eux vont sans doute considérer que leur nouvelle vie, eh bien, elle est aussi en Europe et vont devoir sans doute jongler avec cette double identité à la fois syrienne et européenne pendant le reste de leur vie.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois que ça, c'est surtout un sujet en Allemagne, par exemple. Parce qu'en France, il y a quoi, 45 000, je crois, seulement Syriens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la France est un des pays européens qui a accueilli le moins de réfugiés syriens et le moins de réfugiés ukrainiens. Ça doit nous dire quelque chose sur nos capacités d'accueil.
C'est le même nombre pour les
voilà,
deux pays.
Absolument. Non, c'est un peu plus pour les Ukrainiens. C'est à peu près 100 000, oui. Enfin, bon. Mais sur l'Allemagne, là où c'est vraiment une question très importante, puisqu'il y a eu près d'un million de Syriens qui sont arrivés depuis 2015, et donc 40% sont en cours de naturalisation. Donc on va avoir forcément une sorte de va-et-vient. Il y a 200 000 enfants syriens scolarisés en Allemagne, beaucoup sont nés en Allemagne. Donc, et puis il y a un facteur économique qui est que beaucoup de ces réfugiés sont intégrés dans l'économie allemande, qui avait besoin d'eux, qui avait vraiment des gros besoins d'emploi. Je crois que c'était la première vague de réfugiés syriens étaient des gens plutôt des populations citadines, éduquées, donc qui ont intégré le secteur médical, le secteur des services, le secteur entrepreneurial. Et donc, ce sont des gens dont l'Allemagne a besoin, en réalité. Donc, je ne suis pas sûre que les Allemands vont être si, malgré le climat politique, et ça, c'est tout à fait vrai, très révélateur de la montée de l'extrême droite en Europe, cette réaction. C'est vrai que c'est très choquant que notre première réaction de beaucoup d'États européens sur ce qui se passait en Syrie a été « Attention, on ne veut pas de réfugiés et ceux qu'on a vont peut-être pouvoir rentrer chez nous ». Mais ça montre, c'est tout à fait révélateur du nouveau climat politique, de la montée des mouvements d'extrême droite et puis du poids du facteur migratoire sur la politique étrangère européenne.
Farid Vahid, est-ce que vous êtes aussi choqué par ce premier réflexe? Est-ce que le premier réflexe, peut-être, alors notamment des pays européens, ça n'aurait pas dû être de se dire il va peut-être y avoir effectivement des Syriens qui vont essayer de quitter leur pays, mais parce qu'ils ont participé justement aux crimes commis par le régime de Bachar al-Assad. Et c'est eux qu'il va falloir essayer de repérer, comme on avait pu le voir par exemple, je ne sais pas si la comparaison est valable, mais après le génocide au Rwanda, où il y a beaucoup de criminels rwandais qui se sont réfugiés à l'extérieur du pays.
Écoutez, j'ai été très, très déçu, mais pas très étonné, mais comme François le disait, il y a une forme de... On déshumanise finalement les Syriens, qui effectivement, un Syrien, prenait l'exemple d'un homme ou d'une femme syrienne qui vit en Allemagne depuis 13 ans, qui effectivement qui travaille, qui s'est marié, et les Autrichiens qui vont lui dire maintenant, l'Autriche c'est pire quand même, ils disent qu'on va plus traiter les demandes, et on va expulser les Syriens vers la Syrie.
Ce qui est totalement illégal du reste.
Et ce qui est d'ailleurs, oui, tout à fait illégal, voilà. Mais je trouve que c'est très choquant. Mais n'oublions pas que si les Turcs aussi ont aidé les mouvements djihadistes en Syrie à prendre Damas, c'est aussi pour la question des réfugiés. Vous avez 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, qui causent aussi un grand problème électoral en Turquie. La population turque est très sensible à cette question-là. Donc finalement, il y a une forme de cynisme. En Allemagne, vous avez des élections dans 3 mois. En France, la période instable gouvernementale fait que l'extrême droite a pu imposer certains de ces sujets. Donc tous les pays européens, mais pas que, dans la région aussi, malheureusement, veulent avoir moins de réfugiés. Et les Syriens vont être les premiers à payer le prix. Ce qui est scandaleux dans le sens où j'ai lu un article, des hauts fonctionnaires du régime d'Assad qui se rendent en Libye pour venir en Europe. Donc ça serait quand même absolument indigne qu'on ait des oligarques syriens qui se réfugient en Europe et que les Européens, en parallèle, demandent aux citoyens syriens de rentrer chez eux dans un pays qui n'a pas d'État et qui serait peut-être gouverné par des islamistes.
Jean-François Colosimo.
Oui, moi j'ai 3 points. Le premier, c'est que... d'abord, c'est l'Allemagne qui fait exception dans l'accueil aux Syriens en Europe. C'est pas la France, hein, parce que les chiffres de la France sont comparables plutôt aux autres. C'est Angela Merkel qui a pris une décision politique à ce moment-là, qui vraisemblablement était fondée sur ses propres convictions, peut-être de fille de pasteur. Et deuxièmement aussi sur des nécessités économiques en Allemagne, effectivement tous ces travaux intermédiaires que les Allemands ne font plus de la même manière qu'en France, etc., et où effectivement la population syrienne arrivée s'est largement intégrée depuis. Voilà. Bon. Le deuxième point, c'est que le cynisme européen, il ne commence pas aujourd'hui. Les 3 millions de réfugiés syriens qui sont en Turquie, nous avons payé la Turquie pour les retenir dans le sud-est de la Turquie, quitte parfois même d'ailleurs à se faire un peu racter par Erdogan, qui sait très bien se débrouiller de ce genre d'opportunités, avec de la surenchère, n'est-ce pas ? Et là-dessus, on a délégué véritablement la rétention des immigrés, des réfugiés syriens, à un État qui n'est quand même pas fameux pour, je dirais, son humanité, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a délégué. La troisième chose, c'est qu'il y a un combat politique qui est aussi important que le retour des réfugiés qui le désirent dans leur pays d'origine. Et pour ça, et là, c'est silence radio. C'est que les premiers réfugiés qui veulent rentrer, ce sont les politiques, qui généralement sont des politiques, je dirais, de mouvance démocratique, n'est-ce pas ? Qui ont animé des mouvements de résistance, à Paris, à Berlin, ailleurs. et qui veulent participer à l'édification de la Syrie nouvelle, selon l'ouverture que prétend avoir le nouveau régime.
Mais c'est
le nouveau
plutôt logique,
régime ça. Ne veut pas d'eux. Mmh. Et déjà, je dirais que parmi les réfugiés, les premiers sur lesquels qui ont une volonté de retour, parce qu'ils veulent, après Assad qu'ils ont combattu, ils veulent une Syrie nouvelle. Ben, ils n'ont pas voix au chapitre. Et pour dire la vérité, nos diplomaties européennes leur recommandent plutôt pour l'instant de ne pas y aller. Vous voyez ? Et ça, je dirais que c'est un très mauvais signe, parce que si ces représentants, je dirais au sens très large, d'une forme de modernité politique, ne sont pas les bienvenus à Damas aujourd'hui, que peuvent attendre le reste des réfugiés, n'est-ce pas ? Dans le cas où ils voudraient revenir chez eux. Voilà, je crois que c'est quand même ça le grand problème, c'est que comme nous n'avons pas en fait de vision de la Syrie de demain, mais on ne veut pas tellement non plus en avoir, et on ne veut pas peser, alors du coup, la volonté de voir tous ces gens repartir chez eux devient effectivement une espèce de politique moralement intenable. Le deuxième point, c'est que la question des réfugiés, c'est pas la question de l'Europe. C'est la question des trois pays limitrophes. Turquie, Liban et Jordanie. On ne parle pas assez de la Jordanie qui, sur son territoire, a autant, quasiment autant de réfugiés que le Liban. Alors le Liban, vous vous rendez compte, il y a 700 000, on dit 750 000, peut-être 1 million. Le Liban, c'est un pays de 4,5 millions d'habitants. C'est comme si en France, on avait pris 20 millions de réfugiés sur notre territoire. Voilà. La Jordanie, c'est un pays fragile aussi, et l'intégration des Syriens est très difficile, là pour des raisons en fait de proximité, mais vous savez que la proximité parfois crée aussi l'inimitié, n'est-ce pas ? Et puis la Turquie derrière, la Turquie qui, bon, on va en reparler, qui est quand même la grande gagnante de cette affaire.
Alors, avant peut-être de parler de la grande gagnante, il nous reste à peu près un quart d'heure, donc évidemment il y a énormément de choses à dire hein, sur ce sujet, mais peut-être évoquons avec vous Farid Vahid, le grand perdant de cette séquence dans les pays de la région, c'est manifestement l'Iran qui a vu... Voilà, le Hezbollah a été considérablement affaibli par Israël dans la guerre au Liban. Il y a donc un de ses alliés dans la région, le régime Assad, qui tombe. Vous, pour qui le... Alors, le pays de cœur, c'est l'Iran. Est-ce que, qui connaissait bien aussi la société civile iranienne, d'abord, est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur une société qui se dit, tiens, peut-être que finalement notre tour est venu et qu'un régime qui paraît extrêmement solide, comme semble l'être celui des Mollahs en Iran, ne l'est peut-être pas tant que ça.
C'est une très bonne question. Je ne pense pas que les Iraniens fassent le parallèle entre les deux États et les deux sociétés. C'est deux cas de figure très différents. En Syrie, il y a eu un changement de régime parce que les rebelles étaient armés. En Iran, il n'y a pas de groupe rebelle armé. C'est une révolution culturelle qui est en cours, qui est d'ailleurs une très bonne chose parce que le jour où le changement de régime arrivera, ce sera beaucoup plus facile d'instaurer un régime démocratique en Iran. En revanche, ce qui procure beaucoup de plaisir et de joie aux Iraniens, c'est finalement de voir la faiblesse, la fragilité de la République islamique. Et c'est une excellente chose que les Syriens se débarrassent d'Assad, qui est un dictateur sanguinaire. Mais pour les Iraniens, c'est aussi c'est un moment de bonheur de voir que finalement, cet axe de la résistance qui était la grande fierté du régime. Le régime a perdu l'intérieur de l'Iran depuis des années. Mais il donnait finalement une image de puissance d'elle-même avec cet axe de la résistance et cet empire chiite. Et voilà, vous savez, la République islamique a essayé de percer dans le monde arabe, ce qui est pas facile pour les Iraniens de le faire, pour des raisons que vous connaissez, avec la question palestinienne, voilà, avec cette obsession sur Israël. Donc ils ont, force est de constater, qu'ils avaient réussi à former une alliance stratégique qui allait de Téhéran à Beyrouth, en marginalisant l'axe sunnite, donc Tripoli, Mossoul et Alep. Et finalement, c'était très inattendu, mais pour le régime aussi, quand on entend le discours de l'ayatollah Khamenei il y a deux jours, on voit qu'ils sont complètement toujours sous le choc. Et Assad, qui était peut-être leur meilleur allié, qui était complètement voilà, à l'écoute de la République islamique.
On va vous faire écouter justement un extrait de ce discours d'Ali Khamenei il y a deux jours.
Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé en Syrie est le produit d'un plan conjoint américano-sioniste. Bien entendu, un gouvernement voisin de la Syrie joue et a joué également un rôle évident dans ce domaine, et il continue à jouer encore son rôle tout le monde peut le constater, mais l'agent principal, l'exécuteur principal, le conspirateur principal, l'intrigant principal et le centre de commandement principal se trouvent aux États-Unis et au régime sioniste.
Voilà, l'extrait de ce discours que vous évoquez, Farid Vahid, celui d'Ali Khamenei, donc le guide suprême de la révolution iranienne, ça confirme ce que vous disiez, c'est-à-dire ce côté un petit peu à côté de la plaque, une forme de déni.
Surtout son mépris pour le monde arabe. Pour lui, c'est inimaginable que le peuple syrien ait décidé de faire une révolution, et c'est forcément un complot sioniste américain. Et on voit aussi sa faiblesse, où il nomme même pas la Turquie. Il parle d'un État voisin de la Syrie parce qu'il veut pas trop énerver la Turquie. Donc on voit que la République islamique, qui voulait libérer Jérusalem, finit finalement en un an sans le Hezbollah, parce que le Hezbollah c'était quand même Hassan Nasrallah pour l'Iran, sans Assad, sans Hamas. Les Israéliens, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui les empêcherait d'attaquer l'Iran directement.
Sylvie Kaufmann, vous vouliez poser une question.
Je voulais poser une question à Farid. Est-ce que cet affaiblissement du pouvoir iranien de la République islamique sur la scène extérieure, est-ce que ça a des conséquences déjà sur le plan intérieur? Par exemple, cette loi sur le voile qui devait être beaucoup plus, qui a déjà été adoptée, hein, et qui est beaucoup plus sévère, qui notait un durcissement. Finalement, le gouvernement iranien décide de ne pas demande au président de ne pas la promulguer. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux
événements? Je pense que le noyau dur du régime va être de plus en plus fanatique, et finalement ceux qui veulent adopter ce projet de loi. Mais en même temps, ce qui est fascinant, vous avez vu les images de cette jeune chanteuse qui chantait en Iran sans voile. En fait, plus le régime devient dur, plus de l'autre côté, la société iranienne essaye de se libérer. Et c'est vrai que le parallèle avec la Syrie est très intéressant. Un dictateur qui bombardait son régime, qui gazait son régime, même lui est tombé. Toutes les dictatures tombent et on sait que la République islamique tombera aussi. En revanche, là où je suis peut-être un peu plus pessimiste, c'est le fait d'avoir perdu son axe de la résistance, la République islamique, qui était sa première dissuasion contre Israël et les États-Unis, peut les motiver et les pousser sans doute à acquérir l'arme nucléaire.
De laquelle ils sont très près.
Très proche.
En fait, leur véritable problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir l'arme nucléaire, c'est d'arriver à la miniaturiser pour la mettre sur des missiles, c'est-à-dire pour la rendre utilisable, qu'elle soit véritablement une menace de dissuasion. En même temps, le régime a une échéance lourde, c'est qu'on a écouté le guide suprême, il est malade, il est réputé opiomane, il est très vieux, qui après lui? Vous voyez, de ce point de vue-là, on a véritablement des enjeux aussi au sein d'un pouvoir dont il faut se rappeler que c'est un pouvoir millefeuille, comme à l'oriental, où il y a des clans, où il y a des factions, n'est-ce pas? Et on pourrait imaginer qu'une faction décide d'ouvrir, en fait, un régime probablement militaire, puisque ce serait dans ce cas-là les Pasdaran, bien sûr, qui auraient l'avantage, mais pour tâcher d'en finir avec, définitivement, avec une idéologie qui est morte dans le peuple et dans le pays. On pourrait imaginer ça, en fait, une lutte au sommet du pouvoir. C'est plutôt, ce scénario iranien, c'est plutôt celui-là qu'un soulèvement populaire, parce que malheureusement, le soulèvement populaire, il est là. Il dure depuis combien d'années maintenant? 2 ans. N'est-ce pas? Et il est sauvagement réprimé et ne peut pas aboutir parce que très précisément, les Pasdaran tiennent dans les villes, les casernes, les armes et qu'il y a des milices, en fait, urbaines qui empêchent le peuple de se libérer. Donc, la libération peut venir de l'intérieur du pouvoir avec une faction plus raisonnable qui voudra surtout sauver quoi? Ses acquis économiques. C'est ça, la clé.
S'il y a de grands perdants, c'est aussi peut-être qu'il y a de grands gagnants, Sylvie Kaufmann. La Turquie, Israël, ce sont peut-être quand même les deux acteurs régionaux qui semblent quand même avoir tiré le plus de bénéfices de ce qui vient de se passer.
La Turquie investissait depuis longtemps dans cette évolution, enfin dans ce qui est devenu une révolution syrienne. Alors, les experts sont divisés. Est-ce que la Turquie a vraiment provoqué cet effondrement ou bien est-ce que ça s'est fait finalement à l'insu de son plein gré, comme on dit?
Elle a au moins, à minima, accompagné.
Elle l'a soutenu, elle l'a accompagné. Est-ce que c'est elle qui l'a déclenché? Ça n'est pas si sûr. Mais en tout cas, le fait est qu'elle considère que c'est quelque chose qui va dans son sens et certainement à juste titre. Et la preuve en est, par exemple, que dès très peu de temps après l'effondrement France, le premier du régime, le premier responsable étranger à s'être rendu à Damas, c'est Ibrahim Kalin, le chef du renseignement turc, qui est un très très proche d'Erdogan, qui est donc venu à Damas, qui est allé prier à la mosquée des Omeyyades, qui est exaucant par là un vœu qu'avait formulé Erdogan dès 2012, et la Turquie a rouvert son ambassade en Syrie, et donc on voit bien que accessoirement, les actions des cimentiers turcs ont bondi parce que, évidemment, la Turquie va être très fortement impliquée ou a l'intention de s'impliquer dans la reconstruction. Et c'est pas plus mal parce que je suis pas sûre que les Européens, dont on dit tout de suite que c'est comme d'habitude, ils vont, à défaut d'être des acteurs politiques, participer à la reconstruction. Est-ce qu'ils vont vraiment être capables de le faire? J'en suis pas sûre parce qu'on va être très occupés en Ukraine. Mais en tout cas, c'est vrai que pour la Turquie, c'est un événement majeur. Pour Israël, bien sûr, puisque c'est en partie à cause en raison des actions militaires d'Israël que cet effondrement a eu lieu. Si vous regardez le lendemain de la fuite de Bachar al-Assad, il n'y avait pas moins de 3 armées étrangères qui ont bombardé en Syrie. Il y avait donc les Turcs contre les Kurdes, comme on l'a dit, les États-Unis contre des cibles de l'État islamique, et puis Israël qui a bombardé tout ce qui pouvait ressembler à quelque chose d'hostile et qui s'est enfoncé dans le Golan, qui a emmené des chars dans la zone tampon entre Israël et la Syrie. Et donc on a maintenant le seul finalement qui n'a pas bombardé ou très peu, c'est la Russie, qui fait partie, elle, des perdants probablement dans cette affaire.
François-Germain.
Et n'oublions pas Moscou.
Voilà.
Bachar el-Assad, il s'est pas réfugié à Téhéran, il s'est réfugié à Moscou. Et c'est vrai que si on reprend un peu le temps long, on a le sentiment qu'alors qu'on sortait d'une deuxième moitié du XXe siècle qui était relativement stable en termes d'équilibre géopolitique, on a l'impression effectivement d'un bouleversement continu depuis maintenant presque 23 ou 24 ans, depuis les attentats du 11 septembre. On a l'impression qu'effectivement toutes ces plaques tectoniques géopolitiques ne cessent de bouger et que malheureusement ce sont souvent les civils qui en payent le prix.
Et quelle doit être, ou quelle devrait être la ligne suivie par les diplomaties, notamment européennes, François Germaine, par rapport justement à cette tectonique des plaques qui n'en finit pas d'évoluer?
Je dirais, même si je comprends les réactions de prudence pour le moment quant à la nature future du régime, il me semble quand même que le devoir de l'Europe, c'est de participer à la reconstruction de la Syrie et d'aider, soit par de l'aide au développement concrète à la reconstruction, au moins par des initiatives diplomatiques, à ce que la Syrie retrouve sa place et à ce que les conditions de stabilité et de paix soient à nouveau réunies dans le pays.
Jean-François Colosimo.
Oui, non, le problème qu'on a, c'est que la Russie a perdu sa seule base d'extension et de projection vers l'Afrique avec la base militaire de Mémine et la base navale de Tartous.
Elle les perd peut-être pas, ces bases.
Non, j'ai pas fini. Oui. Elle les a perdues en théorie, elle risque de les garder en fait, parce que la Russie est tout à fait capable de négocier avec ce nouveau régime, puisque la Russie a absolument besoin de ça. Maintenant, elle a quand même une alternative, c'est la Libye, en tout cas du côté du maréchal Haftar. Cette Russie-là, n'est-ce pas, en fait, elle va continuer à être nocive de toute façon, et de ce point de vue-là aussi, nous voyons que la Turquie va encore jouer un rôle totalement ambivalent. La Turquie qui est supposée être dans l'OTAN, n'est-ce pas, mais qui en même temps peut tout à fait mener des massacres au Karabakh, peut tout à fait profiter, même si ça a été plus rapide, un peu plus inattendu, mais la Turquie s'est toujours projetée en Syrie. La Turquie qui se projette contre Chypre et contre la Grèce. Et là, de ce point de vue-là, il y a un véritable face-à-face, puisque la Turquie, en fait, est en compétition avec la France pour la place de première puissance en Méditerranée, et que si la Russie venait à perdre cette base méditerranéenne, ça ouvrirait un boulevard pour la Turquie en Afrique de l'Ouest. Cette Afrique de l'Ouest dont la Russie nous a chassés, vous voyez. Donc je veux dire par là que l'affaire syrienne, bien, on souhaite le retour à la paix pour le peuple syrien, même si on sait que ça va pas aller de soi, et qu'on a risque d'avoir un régime islamiste plutôt dur. Regardez le sort des minorités chrétiennes à Idlib. Bien sûr, on les tue pas. Mais enfin, ce sont pas des citoyens à part entière, c'est de la dimitude, encore une fois. Donc, vous voyez, moi, je trouve que de ce point de vue-là, effectivement, on a un jeu de dominos planétaire. Et voyons aussi ce que les pays du Golfe vont arriver à faire entre eux. Et si l'Arabie Saoudite et les Émirats, pour dire la vérité, vont arriver à s'immiscer dans le couple Turquie-Qatar, qui est le couple, en fait, qui veut s'emparer de la Russie à moyen, de la Syrie à moyen terme.
Ben voilà, beaucoup de questions encore pour de prochaines émissions. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. Merci Farid Vahid, François Jomaine, Jean-François Colosimo et Sylvie Kaufmann. Émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin. Réalisée par Luc Jean-Reno avec la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meij. Émission que vous pouvez retrouver sur Internet et sur l'appli Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un fil, munis de scaphandres autonomes à air comprimé.
Des années 50 aux années 90, le commandant Cousteau a été l'un des grands porte-parole de la préoccupation écologiste. Et pourtant, aujourd'hui, les jeunes générations, pour lesquelles il disait se battre, ne savent plus très bien qui il est.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais qu'a représenté Jacques-Yves Cousteau ? Nous réinterrogeons son époque en regard avec la nôtre.
Nouvelle science, l'archéologie sous-marine est née.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
L'écrivain Christian Bobin était une voix, non une voix parlée, mais un souffle, un chant intérieur. Il suffit de lire une ou deux lignes de n'importe lequel de ses livres pour se retrouver aussitôt près de lui.
J'ai connu un arrêt du temps et des horloges, plus aucune aiguille n'avançait. J'étais entièrement, intimement, intérieurement prédisposé au prochain miracle.
Toute une vie, Christian Bobin, l'enfance au cœur, de Stéphane Bonnefoy, réalisation Anne Pérez, ce dimanche à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.